sur Aligre FM avec Jean-Marc Gélin.
Eh bien, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Jazzland. On est heureux de vous retrouver. You are the sunshine, c'est ce qu'on vient d'entendre et c'est ce qu'on pourrait dire de nos invités aujourd'hui sur le plateau, parce que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui une pianiste et un pianiste aussi. 4 mains et 20 doigts qui font chanter le clavier. Car même s'ils ne sont pas chanteurs eux-mêmes, même s'ils ne donnent pas de leur propre voix, ces pianistes-là, ce sont des vrais chanteurs qui vont chercher dans un terreau autre que celui des habituels standards, des pépites qui sont tirées de la pop musique, de la musique de film ou que sais-je, mais dont ils vont tirer des lignes mélodiques, dont ils sont un peu les enlumineurs. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir une fée et un magicien. La fée pianiste, je vais la laisser dire son nom, c'est
Ramona Horvath.
Ramona Horvath, bonjour Ramona.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir. Vous avez un petit peu votre ronde serviette ici, hein. Vous êtes une habituée d'Aligre.
Oui, tout à fait. Merci de m'avoir invitée. Ça me fait très, très plaisir. En effet, je pense qu'Aligre, c'est la première radio qui m'a invitée à la sortie de mon premier album, Excess Bird, il y a pile poil 10 ans.
Et voilà. Depuis, on vous suit à la trace. Et puis, alors, il y a une fée et un magicien. Ils sont face à face. Le magicien, je vous parlais, je vais essayer de dire son nom.
Laurent Epstein,
pianiste aussi de son état. Alors, juste une petite question. Tous les deux, vous êtes pianistes, tous les deux, vous n'êtes pas vraiment des concurrents. Vous vous connaissez ?
Alors oui, on se connaît. Et puis, vous savez, Jean-Marc, d'abord, je vous remercie également pour l'invitation. Je remercie Aligre FM. Dans la musique et dans le jazz en particulier, il ne peut pas y avoir de concurrence.
Absolument.
On est tous dans le même bain, chacun joue, fait créer son univers. Et il se trouve qu'avec Ramona, on a eu l'occasion de s'écouter les uns les autres. Moi, je suis fan de ce qu'elle fait. Donc, je suis très content de la retrouver.
Oh, bah, c'est adorable. Merci beaucoup. C'est partagé. Et puis, effectivement, oui. c'est ce que j'ai toujours pensé. Pas forcément de mettre le mot sur concurrence. Voilà. Mais je pense effectivement qu'on est tous tellement différents. On a tous nos univers qui sont à part. Et que finalement, c'est ça la beauté. C'est ça la beauté de la musique, d'avoir chacun son individualité.
En tout cas, vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous êtes des amoureux de la mélodie.
Ah oui. Oui.
Ah oui. Ah oui, on le dit en même temps.
C'est un peu le point commun. Alors, Ramona, on vous avait laissé avec Carmen. Alors, Carmen, c'était quand on écoutait l'album, on se disait c'est des trucs de Bizet qu'on n'a pas entendu, mais c'était pas du tout ça. C'était vos propres compositions que vous avez réarrangées en quelque sorte à la sauce arlésienne, enfin, si je puis dire, à la sauce de Bizet. Mais pardon, là, aujourd'hui, la démarche est différente. Aujourd'hui, vous partez de thèmes, et là, on a bien reconnu. You Are the Sunshine, de qui ?
De Stevie Wonder, bien sûr. Oui, c'est...
Pour
c'est...
en faire autre chose.
Tout à fait. Ceci dit, c'était... Pour moi, c'était quelque part normal de retourner à un moment donné, et là, c'était le moment donné, voilà, vers la musique pop, funk, disco, donc tout ce qui est des années 70, des années 80, puisque j'ai beaucoup écouté tout ça. Il n'y avait pas que ça que j'ai écouté dans mon enfance, mais en tout cas, ça fait partie des choses que j'écoutais beaucoup. J'étais une fan incontournable de tout ce qui était la période Motown, donc Stevie et Michael Jackson font partie, bien sûr. J'ai adoré leurs chansons. Je connaissais les paroles de les chansons. Je les connais toujours. Bon, voilà. Donc c'était.
Ah, ça veut dire qu'on peut vous faire chanter alors.
Ah, oui, mais c'est plus cher.
J'imagine.
Voilà, mais ça m'a fait très, très plaisir de m'approprier et puis de m'approcher d'une autre manière, puisque mine de rien, You Are the Sunshine of My Life, ça fait partie des morceaux que les musiciens du jazz, d'ailleurs Laurent peut témoigner, on s'approprie quelque part, on s'approche de ce thème, c'est-à-dire c'est un thème qui, généralement, la musique de Stevie Wonder, ça parle beaucoup aux musiciens de jazz en termes de richesse harmonique et pas que, et mélodie. Mais souvent, You Are the Sunshine of My Life, on le joue, ça se joue dans le milieu de jazz un petit peu dans la même métrique que l'original, c'est-à-dire avec une ambiance plutôt bossa et avec l'intro très connue, avec la gamme entière, partons, bon bref. Et donc c'était très difficile de trouver quelque chose, de changer quelque part tout cet habillage, de l'habiller complètement différemment. Donc c'est pour ça que j'y ai pensé à une version plutôt funk, donc un truc binaire et avec
oui,
une autre vibe.
Oui, on verra tout à l'heure sur un morceau de Michael Jackson que c'est presque un rythme africain.
Il fallait trouver quelque chose pour changer. Justement, s'il faut arranger, arrangeons.
Oui, mais alors justement, l'arrangement, tout en restant fidèle quand même à la ligne mélodique. C'est-à-dire que tout le monde a reconnu You Are the Sunshine.
J'espère. Et puis après, c'est une démarche. J'ai envie de faire une petite blague. Si c'est pour ne plus reconnaître le morceau, je ne vois pas trop l'intérêt. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, faisons un autre. Je veux dire, jouer un morceau dont personne ne le reconnaît, ça peut être autre chose. Donc, bien sûr que c'est important qu'on retrouve le fil quelque part de la mélodie de la chanson en question, bien sûr.
T'as chanté en studio ?
Ah oui, d'autant plus que Antoine Paganotti, le batteur.
Parlez-nous de l'équipe. Ouais.
Voilà, à la contrebasse, c'est mon trio, on va dire. C'est le trio avec lequel j'ai enregistré d'ailleurs Carmen Scarma. C'est le même, c'est Nicolas Rajo à la contrebasse et Antoine Paganotti à la batterie. Et Antoine, on est très proches en termes d'univers musical. C'est pas la seule chose qui nous rapproche, mais ça fait partie des choses qui parfois ça rend fou Nicolas en termes de concentration, parce qu'Antoine et moi on se mettait à chanter à toute tête toutes les chansons de Michael, de Stevie, on connaît les paroles.
On peut trouver, ça a été enregistré.
Il y a quand même des... oui c'est vrai qu'il y a il y a des bandes qu'on n'a pas sorties effectivement, mais non on va faire un after party.
Mais du coup sur ce répertoire là vous pouvez on va parler de votre concert d'ailleurs. Tiens, annonçons votre concert parce que sinon on va l'oublier.
Donc on invite tout le monde, la terre entière. Mais en tout cas, les gens qui sont
invités, on vous propose de venir surtout.
On vous propose de venir. c'est ça, tout à fait. Jeudi 29 janvier au Bal Blomé. Je suis très contente de jouer dans cette salle dans laquelle je n'ai jamais joué, mais je l'ai quand même pas mal
fréquentée.
Très belle
salle, dans le 15e arrondissement.
Tout à fait, je confirme, je l'ai pas mal fréquenté en tant qu'au public, comme auditrice. Et j'ai bien apprécié tous les pianistes que j'ai vus là-bas. Et notamment Fred Hersch, que j'ai vu plusieurs fois là-bas. Donc je sais qu'ils ont aussi un bon piano.
Ça vous parle un peu, Fred Hersch, Laurent Epstein ?
Oh oui. C'est un des très, très grands maîtres. Il est un petit peu moins connu du grand public.
Absolument.
Par rapport à d'autres.
Oui, mais c'est injustement...
Également très grand compositeur et très, très, très respecté chez les musiciens.
Tout à fait. Donc Bal Blomé, 29 janvier, pour le party, release party de Absinthe.
Alors, cet album, il y a beaucoup de morceaux de la pop. Mmh. Est-ce que justement en concert, vous en avez d'autres
Oui.
Ah, d'accord.
Oui, donc venez.
Oui.
Il y a des surprises.
D'accord, on va reparler de ça. Je voudrais, parce qu'il n'y a pas que de la pop, c'est-à-dire que, y a quelqu'un qui a parlé de vous en disant la fée de l'inentendu, vous parle ça ?
Eh oui.
Et d'ailleurs, expliquez-nous, l'album, d'ailleurs on va dire, hein, l'album s'appelle Absinthe, il est sorti sur le label Fresh Sound New Talent de Jordi Pujol, qui est un génie quand même, Jordi Pujol, et il s'appelle l'Absinthe, pourquoi ça s'appelle l'Absinthe ?
Alors, ça aussi, il y a une petite anecdote. Le concept est venu un soir au bar de Somerside avec Enrico Pierannunzi, que je connais et que
aussi c'est immense pianiste.
Un immense pianiste. Voilà, et on discutait de plein de choses et de titres un peu catchy, un peu accrochantes. Voilà, et donc il m'a dit ça sera sympa de faire un jour quelque chose autour de cosas raras, des choses rares, des choses pas joué, pas encore très écouté, pas très connu, pas connu de cette manière-là, etc. Donc c'est Enrico Pierannunzi qui m'a donné cette idée. Je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant comme idée, comme concept. Donc c'est fait quelque part le concept de ce disque, soit les morceaux pop dont effectivement tout le monde ou une grande partie des gens connaissent, pas dans cette manière, réarranger, réadapter, etc., ou autre chose.
Eh bien justement, c'est une belle transition pour écouter le morceau suivant. Vous allez nous l'annoncer, Ballade.
The Ballade for Very Tired and Very Sad Lotus Eaters.
Allez, on écoute. D'ailleurs, Laurent, on va voir si vous reconnaissez de qui ça tient. Blind test. Allez, on y va.
Thank you.
Et oui, vous êtes bien sur Jazzland à l'YFM 93.1 en compagnie de Ramona Horvath pour la sortie de l'absinthe parue sur le label Fresh Sound New Talent et que vous aurez l'occasion de retrouver le 29 janvier au Bal Blomet. On vient d'entendre un jeune saxophoniste là.
C'était pas Dexter Gordon, mais il est... J'ai envie de dire, parce que moi je le vois comme ça, mais c'est pas que moi qui le vois comme ça, c'est un saxophoniste de taille vraiment internationale et il fait partie de la cour de très grands, pas des grands, mais de très grands saxophonistes et ça me fait très très plaisir de travailler avec lui, de jouer, de faire de la musique avec lui et puis de même le nommer un ami puisqu'on se connaît depuis, maintenant ça commence à faire quelques années, on a enregistré ensemble en 2017, donc depuis on joue régulièrement chaque année, on fait pas mal de choses, il s'agit bien sûr de André Villéger.
Et alors là, la fée de l'inentendu, c'est parce que là on vient d'entendre un morceau. Je fais un blind test pour Laurent Epstein. Le compositeur était...
Oui, alors je reconnais le style Duke Ellington, Billy Strayhorn.
Bravo!
Probablement Billy Strayhorn.
Vous reviendrez en deuxième partie,
bravo.
Laurent.
Ah, c'est très sympa. Et je confirme tout ce que dit Ramona par rapport à André Villéger, qui est un immense musicien.
Mais ce morceau, par exemple, vous, Laurent, vous le connaissiez, ce morceau?
C'est un morceau que j'ai déjà accompagné.
D'accord.
Voilà,
d'accord. Mais qui est quand même très peu joué, c'est ça. Vous intéressez, vous, c'est d'aller chercher les morceaux.
Eh bien, ça n'existe que dans.
C'était pas une sentimental mood.
Pas du tout. En fait, ce morceau, il a été enregistré une seule fois par l'orchestre du Duc. Et puis d'autres versions, moi j'ai cherché, je fais mes devoirs habituels comme Claude Carrière m'a appris.
Voilà. On se souvient du Sucrier velours.
Absolument.
Qui était
absolument.
Un album d'une
c'est
pianiste
pareil.
Qu'on aime beaucoup qui s'appelle Ramona Horvath.
C'est pareil. Ce sont des choses dont, bon, même si ça arrive que peut-être certains musiciens, les aficionados, ils recherchent un petit peu des pépites, ils les jouent un petit peu, mais ils sont pas de domaine public, c'est-à-dire que personne ne le connaît. Voilà, ça n'existe pas des enregistrements connus sur le disque. Ceci dit, il y a Fred Hersch qui a fait un disque autour de Billy Strayhorn dont il joue ça. Mais voilà, il y a Fred Hersch, peut-être encore deux, trois enregistrements.
C'est effectivement
et c'est tout.
L'absinthe, c'est très rare. Oui, donc on a parlé de l'équipe. Moi, je voudrais savoir si, et je pose la question à tous les deux, en fait. Vous êtes tous les deux attachés au piano acoustique?
Oui.
On ne vous entendra pas jouer du Fender,
si,
par exemple?
Si, moi, oui.
C'est déjà arrivé aussi.
Oui.
C'est déjà arrivé
en studio, en séance.
Si.
Ceci étant, c'est un instrument complètement différent. On ne peut pas jouer sur un Fender de la même manière, avec les mêmes voicings, avec les mêmes accords.
Mais justement, sur un répertoire un peu plus pop, Fender, non, c'était...
L'idée, c'était aussi de, justement, si c'est différent, c'est que ça soit par un trio acoustique. C'était ça l'idée, puisque tous ces morceaux pop, ils ont été enregistrés à la base avec pas mal des instrumentations électroniques, quoi. Donc l'idée, c'était de le faire d'une manière acoustique, par un trio de jazz acoustique.
Il y a des enregistrements, enfin, je pense à un en particulier, justement en duo, de Bill Evans avec Eddie Gomez.
Oui, tout à fait.
Où il alterne piano acoustique et piano Fender.
Eddie Gomez, la transition est bonne, mais un tout petit peu trop tôt, on va en reparler tout à l'heure d'Eddie Gomez.
Ah oui.
Et puis, une question aussi pour vous deux. Est-ce que un jour, on va avoir la chance de vous entendre en solo?
Ben oui, c'est déjà fait plusieurs fois, mais ça va se refaire certainement. Oui, c'est vrai que le récital, la manière de te mettre en scène en solo comme pianiste, c'est une manière très j'allais dire difficile, mais c'est pas juste difficile. Après, bon, moi qui ai eu un parcours du musique classique. J'ai fait pas mal des études classiques. On est obligé de faire des récitals assez costauds très tôt. C'est-à-dire que je me rappelle le premier récital que j'ai fait à 14 ans quand je devais passer un cap au conservatoire. J'ai dû jouer une heure et demie en solo des morceaux extrêmement difficiles. Donc quand tu fais ça, à un moment, tu es un petit peu dans un sens vacciné de ce que ça veut dire la présence avec le public, la pression psychologique d'avoir préparé un répertoire dans tel niveau, etc. Mais c'est vrai que la musique du jazz, c'est pas pareil. Et le répertoire du jazz qui comporte quand même un ingrédient extrêmement différent et difficile à gérer, c'est le spontané. C'est le « qu'est-ce qui se passe ici et maintenant ?» Et c'est là où c'est très difficile. Donc, ça nécessite une préparation assez importante en amont pour que tu sois vraiment tranquille et à l'aise et en même temps on avec le facteur spontanéité, donc de pouvoir sortir des choses spontanées d'une manière fluide, avoir un bon fil et être quelque part en connivence avec le public, parce qu'il n'y a pas un public qui ressemble à un autre. Il n'y a pas une salle qui ressemble à un autre, tu n'as pas les mêmes échos.
C'est pour ça que vous ne serez pas remplacé par de l'intelligence artificielle.
J'espère bien.
Tant mieux.
J'espère bien.
On parle de Michael Jackson et un morceau de Michael Jackson, retravaillé.
Oui.
C'est lequel?
Heal the World. Qu'est-ce qu'on a besoin de soigner un petit peu le monde, hein?
Oui. Là, on ne va pas entendre les paroles, mais je propose qu'on écoute la version travaillée sur une autre rythmique.
Tout à fait, qui commence avec un rythme effectivement africain, voilà. Et il y a une clave, il y a un pattern qui essaye de créer quelque part une transe, voilà. Et puis finalement. Les solos se développent d'une manière, ça change rythmiquement et se développe sur une manière swingante, voilà, donc sur le ternaire.
Allez, on va l'écouter et si vous voulez, vous derrière votre poste, vous pouvez chanter sur Hear the World de Michael Jackson que vous connaissez par cœur. Merci Ramona.
Merci.
Ah, Take 5. Bah oui, c'est à 17h que je vous donne rendez-vous. Ça sera le samedi 31 janvier dans Jazzland sur Radio Aligre. C'est Alex Dutille, un nouveau rendez-vous le dernier samedi de chaque mois. Et mon premier invité sera David Links.
Ah, ce que c'est bon de réentendre la voix d'Alex Dutille qui va venir refaire de la radio. Et on a de la chance, ça sera sur Jazzland, Aligre FM, comme il vient de le dire. Une fois par mois, messieurs, dames, vous êtes contents de réentendre Alex Dutille? C'est
oui.
La voix du jazz.
On le salue, hein.
Et tout le monde le salue, et donc on aura l'occasion d'en reparler sur les réseaux sociaux. Ramona, un grand merci. On rappelle la date de votre concert.
C'est jeudi 29 janvier, 20h, au Bal Blomet.
Dépêchez-vous, c'est une superbe salle et vraiment, ça vaut le coup d'y aller. En tout cas, nous, on sera là. Je suis avec mon ami Jean-Pierre Foubert, à qui je n'ai pas encore donné la parole, mais qui viendra sûrement nous rejoindre à l'émission et qui est en face de moi. Et Jean-Pierre, on va y aller. Hein.
Merci, merci beaucoup et merci pour l'invitation.
Ramona, vous restez avec nous?
Bien sûr.
On a parlé tout à l'heure d'Eddie Gomez. Ça vous parle, Eddie Gomez?
Ah oui, un peu quand même.
Un petit peu quand même. Je crois que les amatrices et amateurs de jazz.
Oui, oui, si, je le connais même personnellement. Un grand musicien.
Laurent Epstein, French Movies in New York. Eh ben, je vous propose qu'on commence par un premier morceau pour découvrir votre album qui est tiré des musiques de films. Mais à New York, puisque vous êtes allé enregistrer l'album à New York. Et on va commencer par Who Will Take My Dreams Away, qui, sauf erreur de ma part, mais je dis peut-être une bêtise, avait été immortalisée par Marianne Faithfull.
En fait, elle a écrit les paroles.
Écrit les paroles, voilà, c'est ça. Voilà. Je la vois. Mais là, c'est pas elle qui chante, on va entendre une autre chanteuse. Allez.
Absolument. Thank you.
Et oui, vous êtes bien sur Jazzland Aligre FM 93.1 en compagnie cette fois de Laurent Epstein pour French Movies in New York. C'est paru sur le label Plaza Mayor et là on venait d'entendre Who Will Take My Dreams Away chanté par Vanisha Gould. En fait, c'est un petit peu comme Ramona donne une sorte d'écrin à André Villéger. Ben vous avez votre André Villéger, c'est Vanisha Gould sur ce morceau à qui vous offrez effectivement cet écrin. Mais alors, Laurent Epstein, on vous connaît, la scène du jazz vous connaît, vous accompagnez beaucoup. Et puis là, tout d'un coup, tout le monde est surpris. On voit Laurent Epstein qui sort un album enregistré à New York avec des grandes stars du jazz. Et c'est quoi le déclic ?
Alors en réalité, c'est tout un concours de circonstances, certaines liées à la musique et d'autres liées à, on va dire, au temps qui passe, à l'envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. Et puis, je me suis dit, voilà, c'était le moment peut-être d'aller dans la ville, une des villes symboliques du jazz, et puis d'essayer de faire quelque chose qui, moi, en tant que musicien, me procurerait un très grand plaisir. Et en l'occurrence, vu que le disque est sorti il y a quelques semaines, je suis complètement étonné de sa réception. C'est génial, quoi.
C'est une question que j'allais vous poser, parce que là, il se trouve que les hasards du calendrier fait qu'on n'a pas pu vous recevoir avant les concerts de sortie. C'était la semaine dernière, on était au Sunside, et vous avez deux soirs de suite où c'est plein à craquer.
Absolument.
Comment vous recevez ça, vous ?
Ben écoutez, ça me fait très très plaisir. Je ne vais pas dire le contraire. Finalement, bon, moi, ça fait maintenant plus de 30 ans que j'ai le plaisir de vivre de la musique à Paris et de vivre principalement du jazz, même si je fais encore d'autres choses. Donc, j'ai fait pas mal de choses comme sideman, comme accompagnateur. J'ai quand même joué avec pas mal de monde. Mmh. J'avais déjà fait un album sous mon nom il y a une quinzaine d'années, mais autoproduction, oui, absolument. Où il y avait un répertoire différent, il y avait quelques standards, il y avait des compositions. Et puis là, cet album, il plaît beaucoup. Alors, et donc, ça me fait très plaisir.
Il y a plein d'éléments, mais il y a aussi le fait que pour des gens qui ne sont pas forcément, et c'est pareil pour vous, Ramona, qui ne sont pas forcément des grands connaisseurs de jazz, il y a des mélodies qui sont très facilement reconnaissables. Et notamment, là, vous avez choisi l'angle des musiques de films. On va reparler de cet angle que vous avez choisi, mais avant, je voudrais que vous nous parliez de cette équipe incroyable. Comment s'est faite cette rencontre ?
Oui, alors
vous pouvez nous dire qui ils sont.
Oui, bien sûr. Alors en préliminaire, je dois citer quelqu'un qui a été très très important, qui m'a énormément aidé, qui s'est occupé de la direction artistique, qui est Daniel Ivinek, qui est quelqu'un d'absolument formidable.
À tous les projets qu'il touche, effectivement, ont tendance à se transformer en or. C'est vrai.
Et puis donc on a passé pas mal de temps pour la jeunesse de cet album, pour réfléchir. Pour l'organiser, pour l'organisation. C'est vrai que Daniel connaît bien New York, où il a vécu, où il avait déjà enregistré des beaux projets, notamment avec Pierrick Pedron.
Mmh. Bien sûr. Il était dans l'album, derrière l'album de Pierrick Pedron, oui, avec Gonzalo Rubalcaba.
Absolument, et qui est un album absolument magnifique. Et moi, donc, en fait, dans l'idée d'enregistrer à New York, je parlerai des musiciens dans deux secondes, mais je m'étais dit, je vais aussi essayer de leur apporter quelque chose de différent de ce qu'ils ont l'habitude de jouer. Et il se trouve que depuis pas mal d'années, je joue régulièrement en public un répertoire de musique de film qui sont comme des standards, mais pas forcément des musiques de film français. Oui. C'est-à-dire, je joue comme tous les pianistes... Ramona également, on joue le répertoire des morceaux de Broadway, des grandes musiques des années, des grands films des années 50, 60.
Ce qu'on vient d'entendre, c'était quel film ?
Alors là, c'est un film français en l'occurrence, puisque ça a été le fil conducteur. C'est un film de messieurs Genet et Caro, La cité des enfants perdus.
Les enfants perdus, tout à fait.
Et c'est un morceau qui est un tout petit peu moins connu peut-être que les autres. Et quasiment la totalité des morceaux qu'on a enregistrés avec les musiciens américains, eux ne les connaissaient pas.
Ah oui.
Puisque pour eux, peut-être, à moins que ce soit des cinéphiles, parce que j'aurais également sûrement adoré enregistrer des standards américains, ce que je joue tout le temps, avec plein de monde. Mais là, l'idée, c'était de leur présenter aussi pour eux. Et finalement, une des raisons pour lesquelles ils ont accepté, c'est aussi que le projet les a intéressés. Je pense que le répertoire les a intéressés. Je pense que ça faisait partie de leur raison.
On a un teasing affreux, parce qu'on n'a toujours pas dévoilé le nom des musiciens. Mais avant de dévoiler le nom des musiciens, je vous propose qu'on écoute un morceau où là, on vous entend beaucoup plus. Là, vous mettiez en avant la chanteuse. Ouais, on va le dire qui c'est Vanisha Gould. Mais je vous propose qu'on écoute un deuxième titre, Milou en mai.
Avec grand plaisir.
En janvier.
Pourquoi pas ? Thank you.
Waouh. Vous êtes sur Jazzland à Lire FM 93.1 avec en compagnie de Laurent Epstein pour la sortie de French Movie in New York sur le label Plaza Mayor. Et là, on venait d'entendre Milou en mai, qui est une composition de...
De Stéphane Grappelli.
Stéphane Grappelli.
Grand musicien de jazz et où j'ai eu le plaisir aussi de jouer assez régulièrement sa musique. C'est pour ça que j'étais heureux de pouvoir également...
Alors, on a laissé nos auditrices et auditeurs sur un suspense incroyable. Qui sont les musiciens qui vous accompagnent? Allez, droit au but.
Alors, allons droit au but. Donc, à la contrebasse, j'ai eu le grand bonheur de jouer et d'enregistrer avec Eddie Gomez, qui est une vraie légende, on peut dire, dans le monde du jazz.
Bah, c'était quand même quelqu'un qui a...
Bill Evans, entre autres. Et puis pour moi, le premier disque vinyle de Bill Evans que j'ai eu, c'était You Must Believe in Spring.
You Must Believe in Spring, bien sûr.
Où il était à la contrebasse. Alors à la batterie, c'est
Willie... Avec une version magnifique. Absolument. De Someday My Prince Will Come. Enfin, bon.
Eddie Gomez, c'est un... Voilà, c'est un... Pour moi, en tant que pianiste, jouer avec lui après... Après Bill Evans.
Hein, ça doit être impressionnant, ouais. Ouais, ça fait quel effet alors?
En fait, il est tellement, tellement, tellement chaleureux, tellement sympa, que finalement, ça s'est fait très facilement, honnêtement. Il n'y a pas eu de tension du tout. On a joué finalement et il était content.
Rythmique new-yorkaise, puisque
voilà,
à
le batteur, donc Willie Jones de Third. Qu'on a pu écouter dans des...
Vous connaissez Ramana?
Oui.
Voilà, il a joué pendant longtemps, et notamment avec Roy Hargrove. Et puis également, il a joué avec tout le monde. Il a joué avec Herbie Hancock à un moment. Il a joué avec...
Avec Laurent Epstein.
Oui, il faudra qu'il rajoute ça sur son CV. Il faut que je vérifie ça, son site internet, s'il a pensé à me rajouter. Et également adorable, c'est ça qui est très important. Ce sont des musiciens qui ont une carrière absolument exceptionnelle et ils sont d'une simplicité, d'un professionnalisme. C'est incroyable, incroyable.
Alors, Laurent, pardonnez-moi cette question si elle est un petit peu comme ça, frontale. Mais on a le sentiment, on vous entend beaucoup, et d'ailleurs aussi dans ce disque, en retrait derrière des chanteuses que vous servez admirablement. Et c'est presque sur la pointe des pieds que vous allez, comme là on vient d'entendre sur Milou en mai. C'est quoi votre conception du piano? Vous avez une réticence à vous mettre devant?
Alors,
on connaît votre timidité légendaire, mais c'est ça.
Non, parce qu'en fait, mais c'est une bonne question et c'est une remarque qui m'a été faite également. Alors déjà, en ce qui concerne les morceaux chantés, moi, comme déjà j'étais un petit peu loin, j'étais quand même pas à l'autre bout du monde. Je m'étais dit, ça serait absolument bien d'avoir un ou une invitée sur quelques morceaux. Et théoriquement, ça aurait pu être un saxophoniste, un trompettiste. Mais il se trouve que j'adore le jazz vocal depuis toujours. J'ai accompagné énormément de chanteurs, chanteuses, chorales, tout ce que vous voulez. Et donc, l'idée, en prenant une chanteuse, c'était également d'apporter une couleur un petit peu différente. Et moi, mon style de piano, apparemment, ce qu'on me dit, enfin... C'est toujours difficile de parler de soi, mais c'est quelque chose que j'adore faire et que je sais faire, l'accompagnement. C'est quelque chose de particulier
c'est
dans
particulier,
le piano.
C'est particulier, bien sûr. Voilà, c'est qu'Alain Jean-Marie, par exemple, aime beaucoup accompagner
tout à fait,
les...
Tout à fait.
Mais il n'en demeure pas moins que 6 morceaux sur les disques sont des morceaux instrumentaux. Et comme l'idée pour moi, c'était de jouer vraiment sur des ambiances... sur des climats. Le but n'était pas du tout de faire des morceaux trop longs, des morceaux trop techniques, alors qu'il peut m'arriver très régulièrement de jouer des répertoires où je joue complètement à l'énergie. Enfin, complètement. Par exemple, j'ai fait au Sunside, pendant l'été, un hommage à Oscar Peterson, où je jouais des morceaux, on va dire, techniques, difficiles. J'ai beaucoup joué la musique de Django Reinhardt, où il y a souvent des morceaux qui vont très très vite. Voilà, donc en réalité, comme pour la plupart des musiciens, la plupart des pianistes et la plupart des musiciens, on a tous pas mal de facettes à notre... Voilà, mais là, c'était un choix délibéré de climat.
Alors, sur l'équipe qui vous accompagne, est-ce que c'est un one-shot ou est-ce que vous allez vous retrouver? Parce que ce n'est pas évident de faire voyager Eddie Gomez, Willie Jones et puis Vanessa Gould aussi.
Voilà, alors en réalité, moi je leur en ai parlé en studio, il y a eu une excellente ambiance entre nous, je dois dire. Ce qui fait plaisir parce que c'est souvent le cas dans la musique. Comme je joue avec beaucoup, beaucoup de monde, on va dire, j'ai l'habitude, mais il m'est déjà arrivé qu'il y ait des ambiances un peu plus tendues ou un peu moins bonnes avec des gens beaucoup moins prestigieux qu'eux. Et puis donc, je leur ai dit, bah, si ça se trouve, on pourra jouer ensemble. Et ils ont tous dit OK.
Génial.
Mais après, pour pouvoir le faire, ça veut dire qu'il faut, ça s'organise, ça demande quand même un vrai budget. Donc, ça veut dire qu'il faudrait avoir une ou deux grosses dates qui sortent de l'ordinaire. Donc, s'il y a des programmateurs
messieurs,
de gros festivals...
Mesdames les programmatrices et messieurs les programmateurs de festivals, si vous nous entendez, le message est passé.
Ouais, parce que quelqu'un comme Eddie Gomez, il ne va pas traverser l'Atlantique sur un canoë à la rame.
Non, ça serait trop long.
Voilà.
Et alors, donc, c'est quoi l'équipe B, alors ? Si je puis dire, si on peut dire équipe B, ce qui n'est pas très élégant, d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'en réalité, on a la chance et le bonheur d'avoir des musiciens absolument formidables également à Paris. Donc, les concerts de sortie qui ont eu lieu très récemment. À la batterie, il y avait Philippe Magnier, qui a également joué un grand rôle en termes d'arrangement, parce que c'est un musicien qui sait absolument tout faire. Et on était avec...
Ramona Aupin de la tête,
oui. Voilà. Oui, je connais très bien Philippe.
Très bien,
on a beaucoup joué, enfin pas beaucoup, mais on a quand même joué ensemble.
Un musicien et puis, formidable. Il y avait Clément Daldosso à la contrebasse.
Oui, et puis, dont on a parlé d'ailleurs la semaine dernière.
Voilà. Et puis comme on a eu un petit imprévu de chanteuse pour des histoires administratives dont je ne vais pas reparler ici. j'ai eu le grand bonheur qu'une chanteuse formidable, qui est Anne Silla, accepte de faire les concerts de sortie au Sunside. Elle les a chantés avec sa personnalité, son style, et c'était magnifique également. Très différent de Vanessa Gould.
Et puis il y a quelque chose que j'ai remarqué dans votre concert, et que je vois aussi chez Ramona, c'est qu'il y a de la joie quand vous jouez. C'est tellement appréciable. Et de la bonne humeur, c'est très, 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 très appréciable.
Je pense que c'est important, c'est-à-dire que...
ça se diffuse au public.
Voilà, j'ai la chance d'enseigner également, et je trouve que si on fait de la musique, faut que ce soit un plaisir, sinon on fait autre chose.
Laurent Epstein, un grand merci. On redit le titre de votre album, French Movie New York, sur le label Plaza Mayor, qu'on trouve sur toutes les plateformes. Est-ce que vous avez une date de concert, ou le concert est trop proche peut-être ? Vous avez une date annoncée avec ce groupe ? Avec ce projet ?
Avec ce projet, c'est en train de s'organiser, ça se fera. Je sais qu'on rejouera de toute manière au Sunside cet été, à un moment, pendant le festival Pianissimo. Et sinon, j'ai la chance d'avoir pas mal de dates dans mon activité de sideman, qui continue plus que jamais, où je jouerai dans les clubs, j'ai des dates à l'étranger.
On ne peut pas vous louper. Ramona, on redit la date de votre concert.
Alors, 29 janvier à 20h au Bal Blomé, on vous attend avec plein de surprises, avec le trio Nicolas Rageau, Antoine Paganotti, avec notre guest, special guest, André Villéger, mais aussi avec un invité surprise.
Ah, même nous, sur Aligre, on ne peut pas savoir.
Et non, il va falloir venir.
On va faire semblant de couper les micros et puis vous nous le direz. En tout cas, merci Armand à la technique et Quentin aussi, qui sont derrière la vitre. On vous dit merci et on vous salue de la main. À suivre Lusitania. Donc la semaine prochaine, vous retrouvez The Voice, la voix du jazz, Alex Dutille, pour une émission dont je ne dévoile pas encore le thème, mais qui ne sera pas lié à l'actualité. C'est un thème surprise. On va se quitter avec les vacances de Monsieur Hulot. On va se mettre un petit peu en vacances. Nous, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites bien attention à vous. Ciao. Allez, les vacances de Monsieur Hulot. Salut tout le monde.
FM 93.1